affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Allard, conservateur général du patrimoine, directeur du département des peintures du musée du Louvre et commissaire de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles, présenté au musée Marmottan Monet, visible jusqu'au 22 juillet. Corot est né en 1796, il meurt en 1875. Il naît donc 2 ans avant Delacroix et ce sont 2 contemporains, très proches d'ailleurs. Et c'est vrai que Corot est surtout connu du grand public pour ses paysages poétiques, naturalistes et élégiaques et pour ses études sur le motif qui annonce la modernité des impressionnistes. Cette reconnaissance légitime sa place pleine et entière dans le panthéon des maîtres du XIXe siècle. Il y a cependant une part cachée, plus secrète de son œuvre, qui est celle de la figure, à laquelle il s'est consacré toute sa vie. C'est cette dimension tout à fait singulière que vous nous montrez, Sébastien Allard, dans cette très belle exposition. Et vous avez réuni pour cela une 60aine de figures provenant des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe, des États-Unis et du Louvre, bien sûr, avec les prestigieuses donations de Tommy Thierry, de Chauchard, de Moreau Nélaton à la fin du XIXe siècle, qui font vraiment rentrer l'œuvre de Corot au musée du Louvre. Pouvez-vous, en préambule, nous parler de la genèse de cette exposition ?
Alors, la genèse de cette exposition, l'exposition est née en fait d'un double désir, si je puis dire, du musée Marmottan, de son directeur, Patrick Descarolis et Marianne Mathieu, qui sont venus me voir pour me dire on voudrait organiser des expositions qui ont toujours un lien avec nos collections. Ils ont fait beaucoup d'expositions sur les impressionnistes, etc. Et on voudrait un petit peu avoir un artiste qui est un petit peu avant l'impressionnisme et qui peut avoir, disons, faire figure de précurseur. Et on a pensé à Corot. Mais ils ne savaient pas très bien quoi. Et moi, de mon côté, ça fait des années que je m'étais dit qu'il fallait se pencher sur cette part beaucoup moins connue de l'œuvre de Corot, qui était celle des figures. Avec ce questionnement qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on voit des figures de Corot, des personnages, dans un certain nombre de musées, particulièrement les musées américains. Et on en voit une au milieu de ce grand nombre de paysages. Oui, oui. Et on se dit, c'est curieux, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Bon, et puis on passe, on va dans un autre musée et on revoit une figure de Corot. On a la même réaction, mais en même temps on se dit, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Donc voilà, il y avait l'idée de se dire, on va réunir toutes ces figures, ce qui n'a pas été fait depuis les années 60. Le Louvre avait organisé dans les années 60 une exposition autour de la figure, un petit peu, enfin vraiment différente de celle-là. Et donc je me suis dit, en réunissant une 60aine de figures, on va peut-être comprendre ce que ça signifie pour Corot que peindre des figures.
Alors, ces figures étaient rarement exposées au salon, je crois. Et en fait, elles sont apparues au moment de la vente d'ateliers, après le décès de Corot en 1875, c'est cela ?
Oui, alors c'est là un petit peu le paradoxe, c'est qu'en fait, Corot est surtout connu pour ses paysages, il y en a des centaines, mais c'est qu'il a peint aussi un très grand nombre de figures, mais que ces figures sont restées pendant très longtemps quasi inconnues dans son atelier. Il hésitait à les diffuser, il ne les diffusait pas. Alors évidemment, ceux qui venaient visiter son atelier pouvaient en voir accrochés sur les murs, posés par terre, dans les placards, etc. Il en diffusait quelques-unes auprès de ses amis à qui il pouvait en faire cadeau ou à certains marchands mais qui étaient proches, et ce qui fait que de son vivant, ces figures sont restées dans un cercle extrêmement restreint. Il a été présent au salon, comme Delacroix d'ailleurs, tout au long de sa carrière, mais il n'a exposé sur toutes ces années où il était présent au salon, que quatre figures à part entière, parce qu'il y a des figures dans ces tableaux de paysage. Et donc c'était quand même une part, disons, relativement, entre guillemets, on a dit secrète, le mot secret est un peu exagéré, mais une part qui restait
connue des
intimes. Voilà. Et en fait, cette production en nombre importante, quand même, ce sont, il y a peut-être une centaine de figures. Cette production s'est répandue à deux moments, au moment de la vente après décès où on a vendu le fonds d'atelier. Donc là, il y a eu une vente.
Ça a été une révélation.
Ça a été une première révélation. Mmh. Mais beaucoup de ces figures ont été achetées par des collectionneurs privés. Donc elles sont retournées.
Elles sont retournées dans des... le secret au
voilà,
fond des collections personnelles.
Un petit peu. Et elles sont ressorties une deuxième fois. Enfin, parce qu'il y a eu pas mal de... Certaines se sont retrouvées assez vite aux États-Unis avec des collectionneurs privés qui les ont données parfois aux musées américains ou que les musées américains qui se constituaient alors au début du XXe siècle ont acheté. Ce qui fait que beaucoup de ces figures, on le voit dans l'exposition, viennent des États-Unis.
Oui.
Et puis, la vraie révélation, ça a été en 1909, lorsqu'il y a eu une exposition qui a été organisée des figures autour des figures de Corot, exposition qu'ont vu Braque, Picasso, Derain. Voilà. Et la vraie révélation, la vraie découverte est là en 1909.
Alors, est-ce que vous avez une explication ? Est-ce qu'on peut imaginer cette réticence de Corot à ne pas vouloir montrer des œuvres qui, nous, avec notre regard, je dirais, plus que d'amateur, de connaisseur vraiment de la peinture, on se rend bien compte que c'est vraiment un peintre de figure. Donc, pourquoi Corot avait cette timidité, je dirais, à montrer ces figures qui, au fond, n'étaient peut-être pas des thèmes suffisamment nobles pour les exposer au salon et les montrer comme il le faisait avec ses paysages ?
Oui, alors les explications sont des hypothèses. La première, c'est que, alors ça on le sait, la figure, lorsqu'il faisait venir un modèle qu'il posait dans son atelier pour peindre une figure, c'était son délassement. Donc c'était ce peintre de paysage, c'était une forme... C'était une forme faire autre chose que...
Il se sentait plus libre.
Plus libre peut-être. Oui. Donc ça c'est une première chose. Mais la contrepartie de cette liberté, c'est aussi peut-être qu'il se sentait moins parfait que dans ses paysages. Corot n'a pas une formation. Corot est quelqu'un qui vient d'une famille relativement aisée, bien aisée, qui n'a pas besoin de son art pour vivre. Il a une rente de son père.
Oui.
Donc il a une formation dans l'atelier du peintre de paysage Michalon, mais il n'a pas une formation complète, les prix de Rome, l'académie, etc. Et donc peut-être ne se sent-il pas parfait dans la peinture de figure.
Oui.
Probablement que ce sont aussi pour lui des exercices.
Oui.
Des exercices pour arriver... véritablement à être quelque chose qui s'approche du sommet de la peinture, qui est la peinture d'histoire, cette hiérarchie des
genres. Oui, parce qu'il y avait une hiérarchie extrêmement bien établie, puisqu'on sait qu'il y avait les sujets nobles et il y avait aussi ces sujets mineurs, dits mineurs. Alors c'était le paysage, et pourtant ça va devenir un des grands maîtres du paysage. Est-ce qu'il n'y a pas eu là aussi, là je me permets de faire une petite parenthèse, mais elle est importante je pense, vous allez me confirmer tout cela, c'est qu'il y a ce fameux grand prix du paysage historique qui va être créé en 1816, et Michalon que vous évoquiez justement est le premier à avoir ce grand prix du paysage, et c'est le paysage bien sûr parfaitement équilibré, composé, mais là aussi composé, mais déjà avec une ouverture sur ce rapport à la nature qui sera peut-être plus libre et plus spontané et plus naturaliste aussi, mais avec l'obligation toujours d'introduire une scène qui justifie ce paysage, donc une scène biblique ou une scène historique. Et au fond, c'est ce que va faire un peu Corot au départ, et puis religieuse également, parce qu'il va faire des grands... compositions religieuses, mais qui sont immergées dans des paysages qui sont inspirés par ses promenades en forêt de Fontainebleau et ailleurs, parce que c'est un grand voyageur, finalement. Il a beaucoup voyagé en France.
Oui, alors, absolument. Lorsque je parle de Corot, peintre de figure, là, je parle... Et l'exposition porte sur Corot, peintre de figure isolé. La figure
absolument.
En tant que sujet principal. Oui. Mais Corot, effectivement, est un peintre de paysage. On l'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une question assez intéressante pour nous aujourd'hui au XXe siècle. Corot, aujourd'hui, on le connaît surtout et on l'aime beaucoup. On l'aime surtout pour ses études plus ou moins sur le motif, notamment toutes ces études italiennes. Absolument. De la collection Moroni-Latton du Louvre, par exemple, où il y a ces jeux de lumière, où ça c'est très moderne, ces paysages presque abstraits, voilà. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on aime le plus de Corot, voire ces figures un petit peu étranges que les cubistes ont aimées, c'est la part finalement cachée, la part de travail de Corot. Mais à l'époque, Corot est un peintre qui expose au salon, et il expose, les paysages qu'il expose au salon sont pour une grande partie d'entre eux des paysages qu'on pourrait qualifier effectivement d'historiques, donc où il y a des figures. C'est le bain de Diane, c'est Homère, c'est la fuite en Égypte, voilà, donc des scènes bibliques, des scènes antiques, etc. Donc il sait peindre des figures. Après, la question, c'est de peindre une figure pour elle-même.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est là où est sa modernité, sans doute.
Et c'est là où réside une partie, en tout cas, de sa modernité. Et on sent qu'avec cette obsession à faire des figures et à relativement peu les diffuser, qu'il cherche quand même à arriver à quelque chose.
C'est
un laboratoire. Trouver un équilibre entre le paysage parfait, un équilibre parfait entre le paysage et la figure. La figure n'étant pas un prétexte au paysage, et le paysage pas seulement un prétexte à la figure. Et si on regarde dans sa carrière comment sont créées les figures, si on fait une chronologie, on se rend compte qu'elles n'arrivent pas toutes au même moment. On a, dans ses années de jeunesse, dans les années 1830, ce qui est montré dans l'exposition, des tout petits portraits merveilleux, dont les plus beaux sont les portraits d'enfants, avec une sorte d'immédiateté, de côté naïf.
Sensuel, c'est vraiment de la peinture vraiment tactile et qui réjouit, enfin, pas seulement l'œil, mais ça a vraiment une perception, encore une fois, très, très gourmande de la peinture, je dirais.
Oui, et là, ce sont des tout petits tableaux. Et là, ce sont des cadeaux qu'il fait à sa mère, ses nièces, à des amis. Et donc là, on voit que c'est de l'ordre de l'exercice.
Ses gammes.
Il fait ses gammes avec ses œuvres merveilleuses. Il y a des portraits d'enfants qui sont traités de façon naïve, avec des enfants qui semblent avoir du mal à tenir la pose et qui regardent en dehors de la composition, comme s'il y avait le père ou la mère qui lui disait « ne bouge pas, le peintre est en train de te représenter ». Et puis, à partir des années 1840, on voit l'apparition du modèle professionnel avec des sujets. Et puis, dans les années, la fin des années 40, donc au moment où il fait ses grands paysages historiques, et surtout dans les années 50, 60, jusqu'à sa mort, dans les années 70, alors là, la figure devient beaucoup plus importante et est traitée sous tous ses aspects. Parce que, sous le mot « figure », il faut faire attention à ce qu'on veut dire par le mot « figure ». Le mot « figure » n'est pas le mot « portrait ».
Portrait. Alors justement, dites-nous un petit peu la différence, parce que c'est très net quand même comme définition. Et
la figure, Corot peintre de figure, c'est Corot qui peint un humain, un homme ou une femme. Le portrait est une des catégories.
C'est une identité.
C'est une identité.
On doit retrouver le personnage.
Voilà, c'est ça. Il y a dans le portrait, en français, il y a qu'un seul mot pour dire le modèle. En anglais, il y en a deux. Il y a le mot sitter, c'est-à-dire le modèle dont on fait le portrait, souvent le modèle qui paye pour avoir son image pour des raisons diverses et variées. Et puis le modèle, qui est le modèle d'atelier, c'est-à-dire l'homme ou la femme que le peintre en général paye. Donc il y a un rapport de domination déjà est différent. C'est-à-dire d'un côté le peintre est payé, donc il a en général il a quand même un certain devoir vis-à-vis de son modèle, et dans l'autre le peintre d'une certaine manière est maître de son modèle puisqu'il le paye. Ce sont des modèles professionnels, et on voit entre les années disons 20-30 et la suite le basculement chez Corot en nombre entre le portrait et la figure au sens large. Alors, la figure au sens large, c'est représenter des Italiennes, représenter des nus. Le nu fait partie de la figure. Des portraits,
des figures
bien
en
sûr.
Situation, en quelque
des
sorte.
Des figures en situation, ou des figures qu'on pourrait qualifier, c'est un peu anachronique comme terme, des figures de fantaisie.
Et est-ce qu'alors, justement, ce rapport avec le modèle et avec le portrait d'une personne qui souhaite avoir son portrait, est-ce que ça ne modifie pas, est-ce que ça n'interfère pas, même inconsciemment, sur son geste, sur son appréhension de la peinture et sa mise en condition de peintre ?
Alors, évidemment. évidemment.
Mais oui.
Puisque dans un cas, il est quand même soumis à son modèle. Voilà. Alors, on a une petite anecdote assez amusante. C'est-à-dire, dans le cas du portrait, il y a un trait qui est important, en tout cas à l'époque, qui est celui de la ressemblance.
Bien
donc
le,
on fait les traits, on peint les traits de quelqu'un.
Jusqu'à temps, je pense, le commanditaire, quand il se fait portraiturer, il veut se retrouver dans ce portrait.
Il veut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a une histoire, une anecdote assez amusante. Corot aurait peint sa bonne, donc pas un modèle qui payait, mais aurait peint sa bonne et puis aurait voulu lui offrir le portrait qu'il avait fait d'elle.
C'était gentil,
mais la bonne n'a pas été très satisfaite parce qu'elle a trouvé que c'était pas du tout ressemblant. Donc vous voyez,
c'est la
question du portrait.
Bien sûr.
La figure, le modèle, il est libre.
Il a une liberté.
Voilà, oui. il a une liberté par rapport à son modèle qui est beaucoup plus grande, d'autant que Corot, en fait, en même temps, déguise...
Voilà,
entre guillemets, ces modèles.
Une liberté d'invention et une liberté aussi par rapport à son art. Il se permet aussi peut-être des audaces picturales qu'il n'oserait peut-être pas.
Oui, absolument, parce qu'il est... le modèle, il le paye, donc il fait ce qu'il veut.
Donc le contrat est rempli en quelque sorte.
le contrat est rempli. Alors il a un rapport quand même qui est particulier avec le modèle, parce que c'est un peintre... connu comme un peintre de paysage, mais en même temps, c'est un peintre qui devient une sorte de spécialiste des modèles, en particulier des femmes qui posent. On voit dans le journal de Delacroix que Delacroix prend, qui est un peintre d'histoire, donc lui qui représente des hommes, des femmes, qui est habitué à avoir des modèles, Delacroix prend conseil auprès de Corot pour choisir des modèles. Donc ça, c'est un petit paradoxe. Et l'autre paradoxe, c'est que donc Corot fait venir des modèles dans son atelier, dont certains sont très célèbres, comme une certaine Emma Daubigny, qui est un modèle qui pose pour Corot, que Corot aime beaucoup.
Il n'y a pas de relation avec la famille Daubigny.
Non, aucun. Ça ne s'écrit pas de la même manière. C'est une jeune femme pauvre qui pose pour lui. Dans l'exposition, on a un magnifique tableau qui représente Emma Daubigny en jeune grec, qui évoque presque Picasso dans l'abstraction, l'abstraction des volumes.
C'est un portrait très synthétique.
Qui vient du fin fond du Vermont aux États-Unis, du musée de Shelburne, qui a une très belle collection de tableaux de Corot. Et cette Emma Daubigny, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle pose aussi pour Degas, presque au même moment.
Oui.
Elle pose aussi pour Puvis-Chavannes. Donc, on peut se dire qu'une partie...
Donc, on retrouve quand même peut-être
De la moderne...
formelle, il y a peut-être quelque chose...
Ces femmes, finalement, dont on a oublié le nom, pour beaucoup d'entre elles, ces femmes pauvres, finalement, est-ce qu'elles n'ont pas été aussi un des vecteurs de la modernité, passant d'une génération à une autre ?
C'est passé à travers elles, quand même.
Parce
qu'elles avaient quand même une attitude, une silhouette, une façon de se comporter au moment de la pose, et on sait très bien que être modèle pour un artiste, c'est pas du tout facile. Hein. Un modèle qui tient la pose, aussi bien en peinture qu'en sculpture, c'est aussi un métier. Donc, et ces jeunes femmes, elles étaient préparées à être modèles ou bien c'était pour gagner leur vie qu'elles se présentaient. Enfin,
alors,
comment les recrutaient-ils ?
Alors certaines, beaucoup sont elles sont plus ou moins professionnelles. On les recrutait. Alors ils cherchaient beaucoup d'Italiennes. Donc il y avait un certain nombre d'Italiennes, effectivement, à Paris, parce que tout ça renvoyait à ses souvenirs des voyages en Italie.
Trois voyages, ce qui n'est pas rien.
Dans sa jeunesse, oui. Et puis d'autres étaient des jeunes ouvrières et qui finissaient par devenir, pour certaines d'entre elles, des modèles, entre guillemets, professionnels, qui faisaient ça, en tout cas, en partie pour gagner leur vie, ce qui était le cas d'Emma Daubigny, qui avait un teint d'une grande fraîcheur, paraît-il.
Alors justement, si ce n'est pas... Là, il y a peut-être un petit paradoxe, c'est que ces modèles, on arrive à les reconnaître quand même d'un tableau à l'autre. C'est donc qu'il était quand même attentif à une certaine morphologie qu'on pouvait identifier à travers cette figure, non ?
Alors là, oui et non. C'est-à-dire, c'est toujours ambigu. Oui, vous voyez, Corot, il est toujours entre deux.
Il y a un équilibre qu'il faut trouver. Il y a les deux pôles là,
Et c'est ça la difficulté de Corot, c'est qu'il est entre deux parce qu'il vit très longtemps. Donc, il naît. C'est un homme qui naît à la fin du XVIIIe siècle, mais qui meurt au milieu des années 1870. Donc,
il couvre presque tout le XIXe.
Il couvre une grande partie du XIXe siècle. Donc, il est conscient de la modernité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le nombre de figures augmente à partir des années 50, c'est-à-dire au moment où une nouvelle génération, qui est celle de Courbet, le réalisme,
ils sont très proches d'ailleurs, je crois.
Ils se connaissent, enfin très proches et en tout cas.
Ils se fréquentent. Je crois qu'ils se visitent, absolument. La brasserie Andler,
absolument.
Où c'est quand même un des fiefs des polémiques entre le classique, le réalisme, enfin voilà.
Et puis ils visitent les ateliers. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils visitent les ateliers les uns des autres.
Ils se visitent
de la Croix.
Ils savent ce que chacun fait.
Et ils regardent les vieux maîtres. Enfin, vieux, ils ne sont pas complètement vieux, mais disons vieux pour l'époque.
L'ancienne génération.
L'ancienne génération, qui est celle de Delacroix et de Corot, va voir ce que fait la nouvelle. Et le rapport au modèle est capital, parce que si le modèle qu'on paye libère l'artiste, comme on l'a dit précédemment, puisque l'artiste utilise le modèle comme il veut, il y a un risque pour quelqu'un de la génération de Corot, et ce risque, c'est un trop grand réalisme. Voilà. Parce que Corot, c'est un artiste né à la fin du XVIIIe siècle qui a quand même en tête que le sommet, c'est la peinture d'histoire. La peinture, c'est l'idéal. Et ce n'est pas le réalisme à la Courbet. Parce que le réalisme à la Courbet, Delacroix le dit aussi très clairement, Courbet est un peintre, pour eux, un peintre admirable, un peintre de la matière, etc. Mais ces sujets, Delacroix le dit, sont inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'au fond, ce sont les paysans du Jura, et puis après, c'est le quotidien ce peintre.
Oui, et
l'atelier le montre bien.
Finalement, Corot, qui est un peintre de paysage, qui est un peintre qui est allé dans la forêt de Fontainebleau, qui est un peintre, voilà, il ne représente pas, ou extrêmement peu, les rues de Paris, la vie de son temps.
C'est vrai qu'il n'y a pas
plus que Delacroix.
Pas de composition urbaine.
Très peu. Il y a le Beffroi de Douai, à la fin de merveilleux tableau, à la fin de sa carrière. Mais assez peu. Donc il reste dans l'idéal. Il reste dans l'idéal. Et le modèle, donc pour lui, il faut le transfigurer. C'est-à-dire, il faut dépasser le réalisme des traits et faire en sorte que au jour d'aujourd'hui, on est habitué, nous, à avoir, après Cézanne, après Matisse, après Picasso, on est habitué, nous, aujourd'hui, à avoir comme sujet de tableau simplement un modèle qui pose. C'est un sujet tableau. À l'époque, c'était pas du tout évident.
Mais donc
c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les figures de Corot sont restées à l'état d'exercice.
Cette modernité qu'était latente, justement, il y avait ses proches, enfin les familiers de son atelier qui en avaient conscience. Mais par exemple, quelqu'un comme Baudelaire, qui vante et qui célèbre la modernité et qui la décèle dans nombre de ses peintres contemporains, est-ce qu'il l'a décelé chez Corot?
Alors, Baudelaire, oui, comprend Corot, mais le rapport de la modernité de Baudelaire n'est pas celle de Corot.
Alors justement, est-ce qu'il pouvait percevoir ce qu'il y avait de moderne dans cette peinture de Corot?
Il a pu percevoir ce qu'il y avait de moderne, au-delà du sujet. Alors effectivement, ce que perçoit Baudelaire de Corot, c'est cette peinture, je ne sais plus quel est l'adjectif qu'il emploie exactement, mais plâtrée, enfin, avec des couches qu'on a du mal à
maçonner un petit peu.
Il perçoit une partie. Mais la modernité de Baudelaire, même vis-à-vis de Delacroix, qu'il a beaucoup défendu, est plus propre à Baudelaire lui-même. D'ailleurs, il est passé à côté de Manet, Baudelaire.
Donc, en fait, il s'attachait au sujet.
Il ne
pouvait pas voir la modernité picturale, on va dire.
C'est un peu ambigu, mais il n'est pas dans le... Celui qui a le mieux compris, je crois, Corot, et qui a le mieux compris les peintres de sa génération, c'est plutôt Théophile Gautier.
Ah, c'est Théophile Gautier.
C'est Théophile Gautier qui fait de très belles descriptions. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Baudelaire arrive à un moment où la peinture de paysage de Corot, du moins celle qu'on voyait, celle qui était exposée au salon, commençait un peu à lasser.
Mais oui, parce que c'était très répétitif. Donc ce sont tous ces paysages de Mortefontaine, où on voit ces danses de nymphes dans des clairières, il y a une espèce de sfumato. Et là, finalement, c'est vrai que ça devient presque un paysage qui pourrait annoncer un paysage symboliste, parce que c'est moins le paysage tel qu'il le percevait avec un œil vraiment de naturaliste, où il était attentif à déceler la lumière, comment celle-ci pouvait modifier les arbres, une prairie, enfin, c'était le... Et puis alors, bien sûr, ces paysages italiens, et c'est pour ça que ces premiers paysages, les paysages faits sur le motif pendant son premier séjour en Italie, au milieu des années 20, c'est vrai que c'est une vision complètement moderniste. Ce sont des esquisses, il y a une fraîcheur, il y a une transparence.
Oui, vous avez tout à fait raison de faire le lien, finalement, entre Corot et le symbolisme. C'est un peu osé, mais c'est pas loin. Et on voit effectivement qu'au moment du réalisme, pour aller un petit peu vite, disons les années 50-60, Corot fait ses grands paysage qui renvoie à Claude Lorrain, qui renvoie à Poussin, et qui sont où la vision est un petit peu floue, c'est le flou du souvenir, le flou de la mémoire qui semble un petit peu comme s'effacer. On est dans une Arcadie qui renvoie.
Une nostalgie, alors.
Il y a un peu quelque chose.
Peut-être du grand classicisme.
Oui, absolument. Il y a quelque chose.
Donc, s'en éloigner, finalement.
Non, il est là. Et la figure, du coup, est peut-être ce qui lui permet...
Contrebalance. Est-ce que son vrai tempérament, il est peut-être là, justement, ses recherches de peinture qu'il fait autour de la figure?
Son vrai tempérament, il est, en fait... ce que je pense, c'est que son vrai tempérament, il est dans la tension entre ces deux pôles, entre l'idéal et le réalisme, et une forme de réalisme synthétique, poétique, enfin, il faut le qualifier parce que c'est pas le réalisme de Courbet. Et je pense qu'il est dans cette tension-là et qui exprime parfaitement ces figures. On voit que, par exemple, ça c'est très intéressant, c'est que finalement, les premiers tableaux vraiment de figures qu'il expose au Salon en 1859 puis en 1861, ce sont des nus.
C'est vrai qu'il y a quelques nus qui sont quand même assez étonnants.
Alors, il y a des nus étonnants. Et Corot, les nus, il n'a pas attendu 1859 pour peindre un nu. On a dans l'exposition un nu absolument magnifique, qui est une étude.
Mais qui est d'une modernité
absolue.
C'est un chef-d'œuvre. C'est magnifique.
Oui, qui est un tableau.
J'aime moins justement les nus. Enfin, j'aime moins. Je trouve que les nus sont plus convenus. Les nus qu'il fait, vous savez, dans ces années 50, justement.
Alors... C'est parce que notre goût aujourd'hui, évidemment, effectivement, comme je disais, Cézanne, Picasso, etc., va se porter plutôt du côté de ces... Après, Balthus, on pourrait dire aussi.
Et aussi Balthus.
Parce que Marietta...
Il a dû regarder de ce côté.
Oui, il l'a regardé, Marietta, on le sait.
On
voit le nu de Marietta, qui est un petit nu qui est au musée du Petit Palais à Paris. Marietta, parce que c'est le nom du modèle qu'il a écrit sur le tableau. C'est une femme qui est un peu dans la pose de la grande odalisque.
Tout à fait.
Qui dévisage...
C'est tout l'héritage de ces grandes Vénus, depuis Giorgione, depuis Titien, voilà.
Qui sont omniprésentes.
Velázquez, Goya, enfin,
omniprésentes,
toute la grande peinture est
absolument,
là, finalement.
Oui. Omniprésentes chez Corot, résumées dans ce petit tableau, c'est-à-dire où on a là le réalisme du modèle. C'est une femme qui... Les femmes, souvent, chez Corot, ne sont pas très agréables. Elles ont des visages un petit peu durs, des regards...
Un peu charpentés, non?
Très charpentés.
Oui.
Très charpentés. La cuisse de Marietta est énorme. Donc on voit ce que travaille là Corot, c'est les volumes, des volumes assez géométriques, plus que la ligne, les volumes et la lumière et une réduction de la gamme colorée à des beiges. C'est-à-dire des gris un peu chauds, des ocres, des gris un peu chauds ou des gris un peu froids, et puis ce regard un peu défi vis-à-vis du spectateur.
C'est vraiment une œuvre très très contemporaine, je veux dire, pour nous qui savons ce qui s'est fait après.
C'est une des plus modernes.
Un tableau, à chaque fois que je le vois, qui m'éblouit et qui me... C'est bluffant quand même.
Donc on peut retourner le voir à l'exposition.
Mais
et puis, l'avantage de cette exposition, c'est que après, on voit aussi les nus 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, avec en particulier un nu exposé au Salon en 1861, qui est une bacchante qui vient de Washington. Et en fait, au départ, c'est un nu d'atelier, qu'il a peint comme un nu d'atelier, avec tout le réalisme du nu d'atelier. Et ensuite, il a rajouté, il a peint ce paysage.
Le paysage, et puis il y a même, je crois, il n'y a pas un animal, un fauve.
Derrière, il y a des espèces de satyres.
Voilà, c'est ça, ce sont des satyres.
Pour la transformer en Bacchante.
Voilà.
Et parce que pour lui, il faut un sujet, il faut justifier le sujet. Et alors, on est dans une espèce de... On est un peu mal à l'aise face à ce tableau parce que la lumière, on voit bien qu'elle est... Elle ne correspond pas au paysage, c'est une lumière d'atelier. Elle est étrange, elle dévisage le spectateur, elle a les pieds un peu sales. Et les contemporains ont dit, mais il y a les contemporains qui disent oui, sous l'aspect, il y a un contemporain qui dit sous l'aspect de la peinture, c'est bien, mais sous l'aspect de la propreté, ça laisse à désirer. Et pourtant, il y a beaucoup d'eau. C'est ça, il y a beaucoup d'eau dans les paysages de Monsieur Corot. Alors c'est très intéressant cette critique, parce que sous l'aspect de la propreté, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que finalement, c'est un nu, mais trop réaliste. On ne devrait pas voir la saleté du modèle.
Voilà.
Et il y a de l'eau dans les paysages de M. Corot. C'est ce que vous évoquiez précédemment à partir de souvenirs de Mortefontaine, c'est-à-dire qu'on est dans ces atmosphères un peu moites, un petit
c'est
peu vaporeuses. C'est marécageux.
Oui, c'est marécageux.
Mais cette moiteur, cette moiteur dans laquelle les formes se dissolvent, ça évoque l'idée du souvenir. Et cette idée du souvenir, elle est présente aussi dans les figures de Corot. Et si je reviens au modèle qu'il pose dans l'atelier, il y a aussi ce paradoxe de Corot qui fait venir, qui a besoin d'un modèle, d'un homme ou d'une femme, généralement une femme, qui pose devant lui. Et ensuite, il les fait bouger. Donc, on sait qu'Emma d'Aubigné, par exemple, était très remuante. Donc, les visiteurs de l'atelier se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans l'atelier de Corot ? Normalement, quand tenir la pose, comme vous l'évoquiez, on ne bouge pas. Or là, les modèles s'agitaient. Et aux visiteurs qui s'en étonnaient, Corot répondait « Il me faut un modèle qui remue ». Alors on peut se poser la question « Pourquoi ?» C'est qu'en fait, je pense que le modèle qui remue, c'est pour Corot une manière d'échapper au réalisme, justement. C'est-à-dire qu'il fait venir son modèle, il le fait poser, ça l'inspire. Et ensuite, le modèle bougeant, c'est le souvenir du peintre, modèle qui va transfigurer les traits.
Il mémorise quelque chose, mais après, pour le retranscrire, est-ce qu'on pourrait évoquer la métaphore de la mise en miroir
Ce serait un miroir que lui-même, un peu flou.
Oui.
C'est un peu parce que du coup, pour lui, je pense, comme pour Delacroix qui s'en exprime aussi, la mémoire est idéalisante, parce qu'avec la mémoire, quand on regarde quelque chose, tout est à peu près important au même niveau. Et la mémoire décante. Il y a des choses qu'on oublie. Mmh. Et du coup, la mémoire, par rapport au modèle, lui permet de décanter et de ne pas faire une sorte de portrait de modèle. Et le portrait, le modèle devient alors à ce moment-là figure, c'est-à-dire c'est plus Emma d'Aubigné qui pose, c'est une grecque, c'est une italienne, etc.
Oui. Est-ce que d'une façon, je dirais, intellectuelle, il y aurait en quelque sorte la constitution d'une sorte d'alphabet, de vocabulaire, parce que Delacroix parle de ça dans son journal. Il identifie comme ça, il y a des modèles... d'une façon générique, enfin, c'est dans la nature. Dans la nature, il observe des signes, et alors ça justement nourrit en quelque sorte son observation, mais comme vous dites, qui est retranscrite, donc il y a une sorte d'idéalisation qui revient et qui peut-être se rouvre à nouveau sur l'invention du peintre. Enfin,
c'est exactement ça. Il y a une espèce de type de femme qu'on retrouve chez Corot et que Corot, disons, complexifie avec une forme de vocabulaire. C'est-à-dire que ces figures, c'est toujours une femme qui pose, enfin toujours, une grande partie de ces figures, une femme qui pose, un nombre d'accessoires relativement réduit.
Et qu'on peut retrouver d'ailleurs.
Et qu'on retrouve de tableau en tableau. Donc les accessoires, c'est un costume grec, un costume italien, éventuellement un costume oriental, un luth, un livre, etc. Et puis éventuellement un paysage. Oui. Donc on a jeune grec lisant.
Donc ça fait des séries en quelque sorte. La liseuse, les musiciennes.
Voilà. Mais la liseuse, elle est parfois grecque, elle est parfois italienne, elle est parfois assise, parfois elle marche. Etc. etc.
Il varie forcément, et l'attitude, et le costume. Et...
C'est pas tout à fait des séries, je dirais que c'est plutôt des variations poétiques.
Oui, c'est plutôt des variations. Je disais des séries, c'est pas du tout le mot qu'il convient, mais ce sont des variations.
Des variations poétiques sur un thème. Et en fait, la variation en elle-même, qu'est-ce que c'est qu'une variation ? C'est un peu comme la mémoire. C'est une manière d'épuiser le sujet.
Absolument.
Et finalement, pour en revenir à une forme de peinture pure, enfin de peinture pour la peinture, peu importe
il
que ce soit une grève.
Oui.
Il décante. C'est un phénomène de décantation.
Oui.
Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc ces innombrables grecques, italiennes, etc., de formats relativement réduits, dirons-nous. Et puis, dans les années, fin des années 60, 70, tout à coup, les figures gagnent une monumentalité. Et en particulier, on a une figure très importante qui est une Italienne aujourd'hui conservée à la National Gallery de Londres, qui est à mi-corps, mais qui n'est plus un tableau de moyen format, mais qui est presque grandeur nature. C'est très intéressant parce que cette Italienne a été acquise en 2013 ou 2015 par la National Gallery de Londres, et elle venait de la collection de Lucian Freud. Du peintre Lucian Freud.
Alors là,
et on comprend pourquoi.
Voilà.
Parce que dans cette figure n'est pas très agréable à regarder en tant que femme.
Oui, elle est dure.
Elle est un peu dure. La lumière tombe très crûment, très brutalement. Et effectivement, les formes deviennent tout pittoresques. Elle est habillée en italienne, mais finalement tout pittoresque qui pouvait parfois encore un peu exister dans d'autres figures plus petites, tout pittoresque a disparu au profit d'une part d'une géométrisation des formes, un visage rond, le buste lui aussi très géométrique, et d'une valorisation des effets de surface et de la matière elle-même. On a plus que des coups de pinceau, le visage est âpre et c'est à la fois âpre et virtuosissime. On a des empattements, les nœuds sont des empattements de rose, de bleu, et la couleur...
Il y a de la joie, je pense, à part.
Là, il y a de la joie, il y a de la matière, il y a de la sensualité.
Oui,
cette matière, qu'on comprend qu'un peintre comme Lucian Freud, qui travaille aussi cette matière, a pu apprécier. Et puis, là, la couleur. Et par rapport à ce que vous disiez précédemment, il y a là aussi un paradoxe, parce que finalement, Corot, c'est le peintre des paradoxes.
Oui.
C'est qu'au moment où il fait ses paysages souvenirs, qui se décolore d'une certaine manière. On est dans le souvenir, donc c'est des gris argentés, on est dans les gris bleus, etc. Au contraire, ces peintures de figures, en particulier l'italienne de la National Gallery de Londres, deviennent extrêmement colorées. C'est une symphonie de bleu, de jaune, de rouge, de rose. Et le costume de l'italienne n'est plus que couleur. Voilà, ça c'est très important.
Il se révèle vraiment un très très grand coloriste, ce qu'il était, ce que l'on pressentait déjà dans ses débuts. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui l'acquiert, et il y a une plénitude, une maîtrise totale de son art finalement.
Oui, dans l'italienne, en tout cas dans l'italienne, on est là dans un degré de plénitude et de jouissance. Le mot peut être exprimé en communauté d'esprit avec la peinture de Lucian Freud. Et avec un élément aussi intéressant, c'est que beaucoup de ces figures, pas celle-ci, mais beaucoup de ces figures, on a aussi un magnifique tableau de Chicago, La lecture interrompue, sont des figures inachevées. Alors, est-ce que c'est...
C'est volontaire ?
C'est la question. Est-ce que finalement... On voit d'ailleurs qu'un certain nombre des génies de la peinture ont produit des figures inachevées. Léonard de Vinci,
bien
peinture
sûr,
ou sculpture. Ou... Alors, est-ce qu'il était finalement satisfait et arrivé, pour ces tableaux d'ailleurs qui ne circulaient pas, mais arrivé à ce qu'il voulait et que donc il s'est arrêté là ? Ou est-ce que c'était une sorte de work in progress et qu'il disait plus tard je reprendrai,
peut-être.
On ne sait pas.
Oui, oui.
Mais en tout cas, ces figures inachevées comptent parmi ses grands chefs-d'œuvre. La lecture interrompue de Chicago, qui est là aussi une forme, une femme, une italienne, assise à une table très géométrique. Qui est très presque cubiste, qui est presque cubiste là.
C'est très structuré. Il y a une grande structure.
Très structuré.
Ça veut dire que c'est très pensé aussi. Ça a toujours été très pensé. C'est une peinture qui est pensée.
Et le bon papa Corot, l'image du bon papa,
oui,
il était très gentil,
oui,
voilà. Les figures renversent un peu, on a quelqu'un qu'on sent, enfin personnellement, je vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais qu'on sent plus inquiet.
Il y a un questionnement.
Il y a un vrai questionnement.
On sent qu'il y a un questionnement chez lui, effectivement.
Il y a un vrai questionnement.
Par rapport à la peinture, ce qu'elle doit être, et par rapport au sujet. Alors, il y a justement une variation sur laquelle se termine l'exposition. C'est le sujet de l'atelier.
Oui.
Et là, il y a beaucoup de symboles, parce que c'est une femme qui est assise devant un chevalet. Donc, il y a un face-à-face du peintre par rapport à son tableau, par rapport à son sujet. Et puis, que cherche-t-il finalement? Que veut-il nous dire en représentant un modèle assis et souvent un peu absent dans sa rêverie aussi, je pense.
Oui,
nostalgie.
Ça, c'est très intéressant, cette variation sur les ateliers. Il y en a plusieurs. Dans l'exposition, nous en montrons 4. Si on compte la dame en bleu, on pourrait dire 5. En fait, on peut passer devant ces tableaux en disant, c'est une représentation de l'atelier. On a une femme, effectivement, assise en costume italien, un tableau posé sur un chevalet, le poil de l'atelier.
Et on retrouve d'ailleurs sur les murs de l'atelier quelques tableaux, on peut les identifier.
Et sur le mur des ateliers, des petites études italiennes mises ici. Donc on se dit que c'est une représentation de l'atelier.
Puis si il y a un certain réalisme là.
Il y a une forme de réalisme.
Parce qu'il nous montre son atelier.
Absolument. Mais si on va un petit peu plus loin, on se dit, mais qu'est-ce qui est représenté? Ça ne veut rien dire. Ce modèle avec qui touche un tableau posé sur un chevalet. Et alors, on a deux tableaux identiques, un qui est conservé au Louvre et un qui est conservé à la National Gallery de Washington. Mmh. Ils sont en tout point identiques, avec une différence.
Ils sont mis côte à côte.
Ils sont accrochés côte à côte, ils ont les mêmes dimensions, avec une différence. Dans le tableau de Washington, que je pense être la première version, ça se discute, il y a au pied du modèle une sorte de lévrier, un chien. Mm-hmm. Et dans le tableau du Louvre, il y a au pied du modèle la boîte de couleurs du peintre. Donc je me demande si ces ateliers n'ont pas une dimension symbolique.
Oui, je pense qu'il y a des symboles. C'est à clé, finalement. Ce sont des tableaux qu'il faut décrypter.
Un petit peu.
Ils nous demandent de deviner peut-être ce qu'ils...
C'est presque un programme, parce que ce que je pense, c'est qu'il nous dit finalement avec ces tableaux que tout commence à l'atelier et tout finit à l'atelier. C'est-à-dire qu'on a sur les murs les paysages peints plus ou moins sur le vif, sur le motif en Italie, mais que finalement ce qui compte, c'est le tableau qui est posé sur le chevalet, donc qui est quelquefois d'ailleurs déjà encadré. Donc c'est le tableau qui est
prêt déjà à être justement placé dans un salon.
Prêt à être exposé et mis à l'extérieur. Et donc finalement, que certes on travaille sur le motif en Italie, on va dans la forêt de Fontainebleau, etc. Mais ce qui compte...
Ce qui est important, c'est ce qui se fait peut-être à l'atelier.
Dans l'atelier. Et le modèle, c'est pareil. La femme, elle est là. Oui. Elle est réelle. Oui. Mais finalement, ce qui compte, c'est la manière dont le peintre va la transformer en figure dans son atelier. Donc, ce sont des tableaux un petit peu, je pense, un petit peu... Alors, sans lourdeur, mais ce sont des tableaux qu'on pourrait dire un petit peu programmatiques, qui mettent en avant, au moment du réalisme, alors qu'il est reconnu comme l'un des pères d'une forme de réalisme, en tout cas, qui mettent en avant le rôle de l'atelier où tout commence et où tout finit, d'une certaine manière, pour le peintre.
Oui, donc c'est un beau symbole, et finalement, il a fait le tour de son exploration, mais avec toujours un doute, un questionnement qu'il nous renvoie aussi.
Absolument, absolument, et qui se termine, on le voit dans l'exposition, par la dame en bleu.
La dame en bleu, alors parlez-nous de cette dame en bleu, parce que c'est vraiment un grand, grand chef-d'œuvre.
Ça, c'est un des très grand chef-d'œuvre de Corot qui est conservé au musée du Louvre. Donc c'est une femme vêtue d'une robe contemporaine, magnifique robe bleue. Et alors c'est très intéressant parce que c'est une femme qui pose dans l'atelier. C'est pas un portrait. C'est une femme qui pose en atelier. Donc
on connaît le modèle.
On a pensé que ça pouvait être Emma d'Aubigny. Donc c'est une femme. En fait, cette fois-ci, Corot, au lieu de la déguiser en italienne, en grec, en algérienne, il l'a habillée au costume contemporain. Et c'est très important.
C'est qu'elle a une robe de son époque.
De son temps.
Mais
qui n'est pas tout à fait... Alors, on ne sait pas très bien si une robe du soir, une robe d'atelier, peut-être une robe à transformation.
Ça se retrouve, bien sûr, dans les documents de l'époque.
Mais il n'a jamais représenté, ou très peu représenté, le costume contemporain. Alors alors que lui-même était le fils d'une modiste.
Oui, oui.
Et donc, et il représente l'élément le plus spectaculaire de la robe contemporaine, qui est le nœud à l'arrière. Il a regardé les artistes beaucoup plus jeunes que lui.
Oui.
Il a regardé Monet avec Madame Godibert
oui,
ou avec
ça, on pense, bien
Camille.
Sûr, on a envie de les mettre en face à face.
Et c'est ça.
Ce bleu et ce gris, ça serait extraordinaire.
Le bleu, le gris, oui, le oui. vert de le vert rayé oui, de oui. De Camille.
Oui.
Et on voit que là, on a le vieil artiste. C'est quasiment son dernier tableau hein, à la veille de
c'est
de,
un
de mourir.
Tableaux, c'est oui. un des plus. Oui.
Et qui a regardé les jeunes artistes qui peint pour presque la première fois le costume contemporain et où la robe n'est plus que couleur. D'ailleurs, le titre qui a été donné au tableau, c'est La Dame en bleu. C'est un titre ou La Femme en bleu, quelquefois.
C'est extrêmement qui a des résonances, qui est illustré, mais qui transfigure complètement.
Qui est magnifique, oui. Qui est là le corot coloriste. Vraiment. Donc, à la fin de sa vie, c'est un hommage, une sorte d'hommage ou une sorte de rivalité ou une sorte de challenge. On pourrait dire avec la nouvelle génération, c'est le coloriste qui explose et puis tout ça est dans son atelier. Donc il y a une sorte dans ce tableau de résumé de ce qui fait son génie, ses doutes, sa force et son statut finalement de peintre qui croit en une forme d'idéal et qui croit à son atelier où tout s'invente.
Alors, il y a peut-être aussi, là encore, un semblant de paradoxe, c'est qu'il est arrivé à une plénitude totale. C'est vraiment un peintre qui maîtrise complètement son art et en même temps qui continue à avoir ces sortes d'audaces dans une tradition de la figure en pied, parce que ce sont des portraits qu'on retrouve, bien évidemment, dès le XVIe siècle.
Oui.
Donc, il y a cette grande continuité ininterrompue. Et je trouve que ce portrait, cette grande figure de dame en bleu, elle surprend, je pense, les personnes qui ne connaissent pas suffisamment Corot, qui se concentrent uniquement à ces paysages agréables, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas complètement... qui ne sont à aucun moment la figure de Corot, peintre, grand peintre, je dirais, au-delà de son siècle.
Oui.
C'est un peintre atemporel qui...
Alors, c'est un paysagiste génial, notamment dans ses vues d'Italie, qui sont au-delà de l'agréable, qui sont vraiment d'une modernité. Mais ce qui est émouvant dans les figures, et j'espère que l'exposition du musée Marmottan-Monet le montre, c'est qu'on voit toutes les hésitations, on voit vraiment
les questionnements, les doutes, les forces, les
traits de génie, les choses un petit peu moins réussies. J'espère qu'on entrera vraiment avec cette exposition vraiment en contact avec l'artiste, ce qui est très touchant aussi avec la Dame en bleu et avec d'autres, c'est qu'on voit ce vieil artiste qui est au sommet de sa gloire et qui regarde ce qu'est l'art contemporain, ce que fait la jeune génération.
Il a une vraie il ne s'enferme pas justement dans son monde à lui. Il s'est pas figé dans un temps, dans une époque. Il a toujours été au fond attentif à ce qui se passait, ce qui se déroulait autour de lui et, comme vous dites, avec cette jeune génération qu'il connaît et il regarde de ce côté-là parce que il aurait voulu peut-être vivre encore des années
probablement.
Parce qu'on aurait eu encore des très très belles surprises. Alors je crois que cette exposition qui est un grand grand moment de peinture grâce à vous. Sébastien Allard, donc je crois qu'il faut inciter vraiment tous nos amis et le public à aller découvrir cette exposition dont la date de fermeture a été repoussée, donc ne vous fiez pas à ce que vous pouvez peut-être voir sur les affiches. C'est donc jusqu'au 22 juillet, Corot, donc peintre de figure. Et je remercie beaucoup Sébastien Allard.
Merci.
De nous avoir permis de rentrer d'une façon plus confidentielle et d'une façon passionnante dans l'œuvre de Jean-Baptiste Corot. Merci,
merci
Sébastien Allard. Thank you.